Notre affaire à tous avec Marie Toussaint.
Bonsoir, merci d'être là, merci de m'accueillir et merci pour cette présentation. Je crois effectivement, voilà, vous êtes quelques-uns là ce soir. En fait, on a été plus de 2 millions à signer l'affaire du siècle. Je crois effectivement que c'est important que peut-être je vous dise un petit mot, mais ce que j'ai envie qu'on fasse aussi, c'est qu'on puisse discuter de... S'il y a des signataires parmi vous, j'espère qu'il y en a. D'ailleurs, je vais faire un petit test dans 2 secondes. Ah bah voilà, non mais on y va, il y en a qui jouent le jeu. Ok, alors qui n'a pas signé? Ah. Est-ce qu'on peut faire quelques voix en plus ce soir, vous pensez? Vous pouvez aller au stand d'Oxfam du coup, vous pouvez aussi aller sur votre téléphone ou le téléphone de votre voisin sur l'affairedusiècle.net, c'est assez facile de signer. Pardon. Mais non, ce que je voulais vous dire, c'est que ce qui est important aussi, c'est... Je pense aujourd'hui de savoir, voilà, on est plus de 2 millions, ça veut dire qu'on est ensemble dans cette aventure-là. Et donc, qu'est-ce que vous portez aussi? Et j'aimerais bien que, voilà, assez rapidement, on puisse discuter pour vous, c'est quoi la justice climatique? Pourquoi est-ce que vous avez signé l'affaire du siècle? Pourquoi est-ce que vous avez envie de le porter avec nous? Qu'est-ce que vous en attendez? Et je pense que c'est important qu'on construise tout ça ensemble aussi. Voilà, donc en petite intro, c'est le petit message que je voulais vous passer. On est plusieurs milliers aujourd'hui à Prime Vert. Vous êtes pour les fidèles plusieurs milliers chaque année. Et puis ce qu'on voit, c'est qu'on est de plus en plus nombreux dans les rues. Et moi, il y a quelque chose qui me frappe beaucoup, c'est qu'on voit deux mondes qui s'opposent. Je vous raconte la petite anecdote, mais vendredi, il y a eu l'une des premières grandes manifestations des lycéens qui répondent notamment à l'appel de Greta Thunberg, qui était avec nous à Paris avant-hier. Et puis, on voyait en même temps ces 5 à 8 000 lycéens, étudiants, jeunes, se mobiliser, dire que pour eux, le climat, c'est important, qu'il y a urgence, que le vivant, au-delà du climat, est une urgence et que tout le monde devrait se mettre à travailler pour préserver le vivant. Et dans le même temps, quelques heures plus tôt, on avait appris que se confirmait le fait que Total ait accès à 3 blocs d'hydrocarbures au large de la Crète, au large de la Grèce, pour aller chercher des énergies fossiles. Voilà, on sait qu'il faut qu'on laisse 80% des réserves d'énergie fossile sous le sol. On sait que la France sait qu'il faut laisser 80% des réserves d'énergie fossile sous le sol. Et pourtant, Total, il n'a pas eu ses permis comme ça. Il a eu ses permis et l'accès à ces 3 blocs. Parce que le matin où Nicolas Hulot présentait, il y a 2 ans, son projet de loi de sortie des hydrocarbures en France, eh ben, le soir même, Emmanuel Macron partait avec Patrick Pouyanné, le PDG de Total, en avion, en Grèce, pour aller prospecter et discuter de l'obtention de ces permis d'hydrocarbures au large de la Méditerranée, enfin au large dans la Méditerranée, au large de la Grèce. Et juste pour compléter le tableau, hein, mais on a interdit les forages pétroliers au large du territoire métropolitain. J'ai bien métropolitain parce que vous le savez, on a toujours le droit de forer au large de la Guyane. Et dans le même temps, on continue à aller sur ces territoires oubliés, là où finalement l'avenir des populations et l'opinion des populations nous concerne peu. Et on prétend qu'on va protéger le climat et l'environnement sur notre propre territoire. Et on va dans des lieux cachés, donc non seulement loin de la France, mais aussi en mer, là où on ne peut pas aller organiser des grandes opérations d'occupation des territoires pour aller continuer à forer du pétrole, à tirer des bénéfices. Total est super contente parce que non contente d'être la 19e grande pollueuse mondiale et la première pollueuse française, eh ben, c'est la firme multinationale pétrolière qui a fait le plus de bénéfices cette année et qui a tous les meilleurs indicateurs en bourse. Voilà, et ben aujourd'hui, la France, c'est ça. C'est Emmanuel Macron qui accueille Greta Thunberg vendredi soir. C'est Emmanuel Macron qui répond à l'affaire du siècle. Le problème, c'est pas l'État, c'est les citoyens. C'est Emmanuel Macron qui dit « Make our planet great again » et le climat, c'est important. Et qui pourtant prend Total pour aller chercher des permis sur le dos des populations en continuant l'accaparement des richesses, l'inégalité sociale et la destruction du climat et de l'environnement. Alors, ça peut paraître un peu brutal, mais c'est un peu la réalité et illustratif de ce qui est en train de se passer autour de la planète. Et en fait, face à cette inaction généralisée, on observe une vraie colère, mais on sait qu'on a aussi des moyens d'action. Et moi, quand j'ai construit notre affaire à tous, c'était de se dire il y a un moyen d'action qu'on n'a pas encore pleinement utilisé en France, qui est la question du droit. Et en fait, le droit, c'est à la fois un vrai outil d'action, et j'y reviendrai, un levier dans la mobilisation qui vient s'ajouter à tous les autres leviers qui existent, mais c'est aussi plus profondément le reflet de nos sociétés. Et comme dans une maison, pour, avec notre famille, on a un espèce de règlement intérieur, tacite ou explicite, où on dit à ses enfants, voilà, il faut nettoyer la table après avoir mangé, il faut aérer 5 minutes sa chambre, on se le dit entre nous d'ailleurs aussi, entre adultes. Et ben, de la même manière, ce règlement intérieur-là de nos sociétés, c'est le droit. Et normalement, le droit, on l'élabore entre citoyens, c'est le pacte social de Rousseau, sauf que... depuis plusieurs siècles, on a élaboré un pacte social entre les êtres humains qui permet normalement la paix, la cohésion. Il y a des petits problèmes, on peut en reparler. Hein. Mais en tout cas, les démocraties modernes n'ont pas réussi à protéger nos communs planétaires. C'est le climat, mais au-delà de ça, c'est aussi les océans. On sait que les océans sont acidifiés. C'est la biodiversité. On vit la 6e extinction des espèces, sachant que la 5e, c'était les dinosaures. La question de l'eau potable et des autres polluants dans l'atmosphère. On parle de la couche d'ozone, mais il y a d'autres polluants atmosphériques ou encore les nanotechnologies, ces technologies qu'on crée, qu'on lance sur la planète, quoi, sur la surface de la planète, et dont on ne connaît absolument pas les conséquences et les impacts. Voilà, donc on a nos communs naturels qui sont en train de s'effondrer. Hein, on est dans cet effondrement et à ce niveau-là de la société, de l'histoire de l'humanité. Mais les démocraties n'ont pas réussi à protéger les communs naturels. Et donc on voit bien qu'on a besoin de passer de ce contrat social à un contrat naturel qui nous permette de vivre en harmonie avec la nature, de tenir compte des besoins de la nature, du rythme et de l'évolution des écosystèmes. C'est ce qu'on appelle les droits de la nature ou encore les limites planétaires. C'est le fait de dire qu'on a des éléments naturels qui ont un rythme, qui ont une biologie, des montagnes qui ont le droit de ne pas s'effondrer, des fleuves qui ont le droit de ne pas être pollués et donc il faut qu'on les protège. Et notre affaire à tous, ça vise à ça, à avancer vers ce que pourrait être un contrat naturel pour la France, mais aussi pour l'Europe et pour la planète, parce que les communs naturels planétaires, par définition, ce sont ces communs qui concernent toutes et tous les êtres humains et le reste du vivant, mais aussi un levier de mobilisation réel. Et pour vous en parler un peu, je vais vous parler de quelques exemples et vous embarquer un peu en voyage autour du monde. En 2016, il y a une jeune femme, je vais vous parler beaucoup de jeunes femmes aujourd'hui, qui s'appelle Jamie Margolin, qui a créé un mouvement aux États-Unis qui s'appelle « This is Zero Hour ». Donc c'est l'heure zéro, c'est l'heure du début, ou alors c'est l'heure de la fin, ça dépend comment on l'envisage. Et elle a mobilisé des milliers de lycéens, et elle a organisé la première grande manifestation en juillet dernier, avec des dizaines de milliers de lycéens qui ont marché sur le Pentagone pour dire stop à l'inaction climatique et pour dire à Donald Trump « on a besoin que vous vous souciez du climat » et des générations futures, mais déjà de nos vies à l'heure actuelle. Et puisqu'il existe un droit à une économie stable aux États-Unis, on doit avoir le droit à un climat stable ici, dans ce pays. Alors il y a une première juge qui a répondu, effectivement, le droit à un climat stable devrait être constitutionnel. Ça nous a un peu fait rire en France, mais en fait, quand on regarde les décisions de justice, que ce soit sur les hydrocarbures, avec le Conseil d'État, ou encore à Vienne, sur la question de l'aéroport, ou à Londres, là aussi sur une question d'extension de l'aéroport, les juges constitutionnels en Europe répondent oui, il y a peut-être un droit à un climat stable, mais en vrai, les droits et les libertés économiques, le droit de propriété et la liberté économique, il est encore supérieur à la question de la protection de l'environnement et aux droits environnementaux des êtres humains. Donc c'est pas anodin. Mais ces dizaines de milliers de gamins, en fait, ils se sont associés aux quelques dizaines seulement d'enfants, d'adolescents, qui avaient lancé des actions en justice aux États-Unis contre les États fédérés et contre l'État fédéral. Et ensemble, ils essayent de se battre pour avoir le droit à un procès. Pourquoi est-ce que je dis le droit à un procès? C'est même pas le droit de gagner ce procès. Pour l'instant, ils se battent pour avoir le droit à un procès parce que des gens comme Trump, et on peut imaginer demain Bolsonaro, essayent de ne pas être mis devant les tribunaux sur cette question-là. Et donc, ils n'ont de cesse de repousser ce procès qui aurait dû se tenir depuis un an et demi déjà dans l'affaire Giuliana. Il y en a des dizaines et des dizaines d'autres en attente aux États-Unis. Et on est au cœur d'une question démocratique, c'est-à-dire le droit à un recours effectif à la justice et le droit à voir ses droits humains protégés. Et on sait aujourd'hui combien les droits humains sont liés aux droits environnementaux. Ces gamins-là, aux États-Unis, ils ne sont pas les seuls à saisir la justice. On a aussi New York, San Francisco, Oakland et des dizaines d'autres villes à travers les États-Unis, en Colombie-Britannique, au Canada et dans de plus en plus de villes en Amérique du Nord, qui saisissent les tribunaux, non pas cette fois contre Trump et son administration ou contre les États-Unis, mais contre les grandes multinationales pollueuses. Aujourd'hui, on compte 25 multinationales qui ont émis 71% des émissions de gaz à effet de serre depuis 1988. Pour être plus précise, entre 1988 et 2015. Ces 25 firmes seulement publics, comme la compagnie charbonnière de Chine, et privés. Je vous ai cité Total, mais il y a aussi Shell, il y a aussi Exxon, il y a aussi Chevron, Texaco. Voilà. Et ben, ces firmes-là, elles ont émis 71% des émissions de gaz à effet de serre entre 1988 et 2015, c'est-à-dire autant que ce qui avait été émis entre 1850 et 1988, c'est-à-dire depuis la révolution industrielle. Et pourquoi 1988 est une date importante ? Parce que c'est l'année de la création du GIEC. Ça veut dire que c'est l'année où la communauté internationale tombe d'accord sur le fait de dire il y a un réchauffement de la planète, il y a un dérèglement climatique, il y a un réchauffement de la planète. Ce réchauffement, il a une origine humaine et il aura des conséquences désastreuses. Et ben, le moment où on fait ce constat, où toute la communauté internationale tope sur ce constat, et ben, on n'a jamais autant pollué depuis et jamais autant pollué aussi vite qu'avant qu'on ait fait ce constat et qu'il y avait encore des discussions scientifiques sur cette question-là. Ces villes, elles ne sont pas toutes seules, puisque ici aussi, en France, avec notre affaire à tous et avec d'autres associations, Sherpas, Z2A Océan et les Écomères, on a été chercher des villes, on leur a expliqué ce qui était en train de se passer et on leur a dit, nous aussi, on peut agir et on peut agir avec vous. Et donc, on a déjà 15 villes françaises, à côté de chez vous, Grenoble, mais on a aussi Bise-Minervois dans l'Aude. Vous savez que les communes de l'Aude ont été très frappées par les inondations cet automne. Plusieurs villes de région parisienne, Grande-Synthe, qui est sur le bord du littoral, qui ont saisi Total. Alors les villes américaines, elles avaient saisi Total en disant on a besoin que vous nous remboursiez les dégâts que vous avez causés. Et puis les villes françaises, elles disent on a besoin que vous aussi vous inscriviez dans une trajectoire de protection de l'accord de Paris. Je ne m'étends pas là-dessus parce que je vous ai raconté les trois nouveaux permis d'hydrocarbures tout à l'heure. Vous voyez bien que Total est complètement en dehors des clous et même s'ils nous répondent, nous on fait attention et en fait on s'est inscrit dans une trajectoire 1,5 de degré, et ben on sait très bien que la réalité c'est qu'ils sont complètement à côté de la plaque et qu'en fait ils en ont rien à foutre des dégâts qu'ils causent. Aux États-Unis, ils demandent remboursement, pourquoi ? Parce que les catastrophes naturelles l'année dernière, elles ont coûté 330 milliards de dollars. Moins de la moitié a été remboursée par les assurances. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les coûts des catastrophes naturelles et celle de la dégradation lente de l'environnement, quand une montagne s'effondre, quand la mer monte, quand il y a des inondations qui ne sont pas jugées comme étant des catastrophes naturelles, mais qui sont juste plus fréquentes et plus violentes que celles habituelles, et ben c'est qui paye ? C'est les contribuables. Et ce n'est pas normal parce que ce sont précisément les libéraux, les capitalistes, qui ont en 1982 inventé le concept du pollueur-payeur, qui est censé être un concept qui s'applique. Et donc, normalement, on doit avoir des boîtes qui payent et qui réparent les dommages qu'ils ont causés. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une totale impunité avec des boîtes comme Total ou comme Shell, j'y reviens, qui ne payent même pas d'impôts plus d'une année sur deux au cœur de l'Union européenne. Et ce n'est pas les seuls à agir, ces villes, ces citoyens, ces gamins, ces ados aux États-Unis. Il y a aussi 10 familles d'Europe et du monde qui ont agi en justice contre l'Union européenne pour inaction climatique. Avant même que nous lancions l'affaire du siècle, c'est parti en mai dernier. Ces familles-là, elles disent nos droits sont bafoués, nos droits à la vie, nos droits à la santé. Mais aussi, on a Maurice Féchet et sa famille dans la Drôme qui disent sur mon exploitation de la vente, j'ai perdu 44% de mon revenu depuis 10 ans. Et en fait, j'arrive plus à travailler, j'arrive plus, et mes enfants n'ont plus de quoi exploiter notre exploitation de la vente. Donc ils ont été obligés d'acheter des poules pour compléter les revenus. Mais ils disent aussi, on est en train de perdre notre identité culturelle. Puisqu'avant, on pouvait élever de la lavande dans la Drôme. La Drôme était le symbole, la lavande était le symbole de la Drôme. Et puis que maintenant, on commence à planter de la lavande en Bourgogne. Quand je vous dis qu'ils ne sont pas les seuls, je voulais aussi vous passer le message. Il y a maintenant des écosystèmes qui estent à leur tour en justice. En 2016, il y a la rivière Little Mahoning, en Pennsylvanie, qui a défendu ses droits devant les tribunaux et qui a fait interdire la fracturation hydraulique, le gaz de schiste, en disant, en fait, pour que mon eau soit saine, pour que mes rives soient saines, j'ai besoin qu'il n'y ait pas de fracturation hydraulique. Et les tribunaux lui ont donné raison et ils ont dit effectivement on va interdire la fracturation et le gaz de schiste dans l'ensemble de l'État de Pennsylvanie. En 2017, on a eu la même chose avec le Gange et le Yamuna, donc ces deux grands fleuves indiens. Ça a été facile en Inde parce qu'on attribue un caractère sacré au Gange et au Yamuna. Dans la tradition, on considère déjà que ce sont des personnes, des entités vivantes. Et en fait, là, les tribunaux ont dit effectivement, il y a une problématique. Le Gange est 3000 fois plus pollué que ce que réclame l'OMS. Et donc, on a besoin de protéger cette rivière-là, sauf qu'on n'arrive pas à établir vraiment de devoirs. Et donc, on va transformer cette question des devoirs en question de droit. Et donc, on va permettre à chaque citoyen de pouvoir défendre ces rivières, ces fleuves, les affluents, depuis les glaciers jusqu'à l'embouchure, devant les tribunaux à chaque fois qu'on repérera une pollution, de sorte à pouvoir mieux protéger ces estuaires. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'on a des ennemis majeurs. En matière climatique, je vous ai dit, on a ces pollueurs, ces 25 firmes qui polluent énormément. Quand on regarde sur la question de l'alimentation, de l'agriculture, et je pense qu'on en a beaucoup parlé aujourd'hui ce week-end, mais c'est pareil, c'est des grosses firmes qui détiennent les semences, qui accaparent les bénéfices de la vente de ces semences, qui nous empoisonnent, qui ne redistribuent pas les richesses et qui empoisonnent les sols. On ne compte que 5% de sols viables et qui respirent aujourd'hui en France. Ben, ces firmes-là, elles s'approprient aussi notre pouvoir démocratique. Elles écrivent un droit dans notre dos au niveau international. C'est le droit des contrats, le droit de l'arbitrage. Et on sait aussi que ce sont les plus riches qui ont le plus pollué la planète et que ce sont les plus pauvres qui, aujourd'hui, sont les premières victimes et les premiers impactés par le réchauffement climatique. Mais ces firmes multinationales, elles ont des alliés. Ce sont les financeurs. Et on sait que les banques financent de plus en plus les énergies fossiles et de moins en moins les renouvelables, ce qui est quand même contradictoire. Et elles ont aussi des alliés qui sont les États, du fait de leur inaction, via leurs infrastructures, mais aussi du fait de leur inaction dans leur pouvoir de coercition du secteur privé. En fait, un État comme la France, quoi qu'on nous dise, quand Emmanuel Macron, Édouard Philippe, François de Rugy répondent aux associations de l'affaire du siècle, en fait, on n'est pas vraiment en retard, c'est les citoyens qui bloquent la transition. Ben, nous, on a envie de répondre, mais en réalité, la rénovation thermique des bâtiments, sur lequel on est 22% au-dessus de la trajectoire attendue, c'est le travail de l'État, c'est l'État qui peut agir et c'est pas les citoyens. Sur la question des transports, c'est l'État qui peut investir dans le ferroviaire plutôt que dans la route. Sur la question de la régulation du secteur privé, c'est l'État qui peut dire à Total, il faut arrêter d'exploiter les énergies fossiles, il faut passer aux renouvelables. Et sur la question des banques, c'est l'État qui peut dire aux banques, il n'y a pas seulement besoin d'un plan et de transparence sur vos investissements, mais il y a aussi besoin que vous vous inscriviez sur la route de l'accord de Paris. Aujourd'hui, ce que disent les jeunes qui se mobilisent à travers le monde, qui sont encore mobilisés vendredi à Paris, c'est « il y en a marre ». En fait, il y en a marre et vous nous prenez pour des tartuffes. Vous nous mentez. Vous dites que vous agissez au maximum de votre capacité et en fait, ce qu'on observe, c'est que vous ne faites rien. Et nous, ce qu'on vous dit, c'est que ça ne concerne plus nos enfants ou nos petits-enfants, ça nous concerne déjà nous, notre droit à un avenir. On vous dit aussi qu'on sait que c'est lié, qu'on sait que le réchauffement climatique pèse d'abord sur les plus pauvres, qui pèse d'abord sur les femmes, qui pèse aussi sur les populations immigrées avant de peser sur les populations qui sont anciennement arrivées, pour dire les choses de cette manière-là. Et en fait, vous nous aurez plus. On sait que la question du vivant, elle est une, qu'en redonnant la dignité au vivant, on redonne sa dignité à chacun. Et donc qui lit l'ensemble de ces sujets, qui lit l'ensemble de ces combats et qui disent en fait vous devez agir et qui considèrent qu'ils sont et nous sommes la dernière génération à pouvoir sauver le monde et que pour cette raison précise, on n'a pas le droit d'échouer. Et en fait, on peut gagner. Et c'est le message que je voulais vous faire passer aussi. On a vu des victoires, des actions en justice climatique aux Pays-Bas. Vous avez entendu parler de l'affaire Urgenda. Ça a été confirmé en octobre 2008, mais la première victoire, elle a été obtenue en mai 2015 et les juges néerlandais ont imposé à l'État d'augmenter ses ambitions de gaz à effet de serre, ce qui a fait que juste derrière, la majeure partie des partis politiques a déposé puis adopté la loi la plus ambitieuse de tous les pays occidentaux en matière de lutte contre le réchauffement climatique en visant moins 95% d'émissions à horizon 2050. On a aussi gagné au Pakistan, où là c'est un fils d'agriculteur qui a assigné son État en justice en disant « parce que vous ne faites rien, le droit de mes parents sont bafoués, ils n'arrivent plus à produire assez pour vendre, mais ils n'arrivent même plus à produire assez pour se nourrir ». Et donc la Cour suprême pakistanaise a imposé au Pakistan d'adopter un plan climat ambitieux. Et comme le Pakistan ne bougeait pas, il a même mis en place un conseil des ministres bis, un conseil climatique dont il a nommé les membres et qu'il a chargé d'élaborer cette politique et de la réviser tous les 6 mois. Et puis on a aussi gagné en Colombie, en avril dernier. Il y a 25 jeunes qui ont gagné, qui ont réussi à imposer à l'État colombien et aux régions colombiennes un plan de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, contraignant et immédiat, un plan de lutte contre la déforestation, qui a réussi à imposer le fait de donner des droits à la forêt amazonienne pour qu'elle puisse se défendre et à établir un pacte intergénérationnel pour la vie dans l'Amazonie qui permette de garantir le fait d'attribuer des droits aux générations futures. Mais les actions en justice climatique, ce n'est pas la seule manière dont on peut gagner. Il y a des actions de désobéissance civile qui ont réussi à protéger les communs. On a vu des barrages, des projets de barrages tomber au Népal. On a vu le projet de détruire la forêt Białowieża, qui est la dernière forêt primaire d'Europe, tomber grâce à l'activisme à la fois juridique mais aussi sur place, sur le terrain, par l'occupation de la forêt. Et donc on a vu la forêt protégée par l'Union européenne. Et puis on a vu la chute de Notre-Dame-des-Landes, de ce projet d'aéroport, grâce aussi à l'occupation qu'on avait pu déployer toutes ces dernières années. Et puis, les mobilisations citoyennes qui sont nées à partir de septembre et de décembre et qui ne font que s'amplifier à travers l'Europe, elles aussi, elles permettent de marcher. En Belgique, en janvier, il y a des académiques, des universitaires qui ont proposé une loi ambitieuse pour la protection du climat, avec des échéances extrêmement régulières et dès aujourd'hui, parce qu'on sait que c'est demain, en 2020, qu'on doit avoir un pic d'émissions. Cette loi-là, elle a été déposée au CITOSEC par des partis politiques. Et bonjour. Ouais.
Bonjour tout le monde. Je m'appelle Max, militant d'Action non violente COP21. Il y a trois jours, jeudi 21 février. Il y a trois jours, jeudi 21 février, des actions ont été menées dans les villes de Lyon, Paris, Biarritz et Ustaritz, consistant à réquisitionner les portraits du président dans les mairies afin de les sortir pour lui montrer la réalité du changement climatique en cours et la colère des gens. Climat, justice sociale, sortons Macron. Cher président, vous refusez de donner une réponse adéquate aux 4 ONG et les plus de 2,1 millions de citoyens français qui vous demandent d'agir face au dérèglement climatique. Au lieu de ça, vos ministres condamnent cette action pour s'être attaqués au symbole de la République. Vos ministres ordonnent la garde à vue d'un militant, la perquisition de son domicile et du local d'ANV COP21 à Lyon. Mais qu'est-ce qui menace la République ? Des actions symboliques ou le chaos climatique ? Messieurs le Président, vous choisissez de rester aveugle. Nous allons donc vous montrer que la mobilisation citoyenne est bien réelle, que nous sommes pleins à demander des actes forts, pas des petits pas ou un autre grand débat. Nous allons nous mettre face aux signataires de l'affaire du siècle. Levons-nous tous pour lui montrer notre détermination. Nous appelons tous partout à reproduire les actions de réquisition citoyenne dans les mairies. Nous allons continuer à sortir Macron de son tour d'ivoire et nous continuerons à mettre en lumière son irresponsabilité aussi longtemps qu'il le faut.
Ben voilà, c'est bien, c'est eux que vous applaudissez, c'est pas moi. j'étais précisément en train de vous dire, je sais pas s'ils ont choisi leur moment exprès, mais j'étais précisément en train de vous dire, il y a des actions de désobéissance civile qui marchent. Et voilà, on a un exemple d'action. Parfois, il faut aller plus loin. Et plus vite, et effectivement, c'est ce qui est frappant, et je pense ce que tu as souligné dans ton intervention, c'est que quand on est plus de 2 millions, donc c'est énorme, hein, plus de 2 millions, c'est la plus grande pétition jamais signée en France, c'est une pétition qui est en soutien à une action en justice pour que l'État avance, et que l'État nous répond, en fait, c'est pas de notre faute, c'est de la faute des entreprises et de la faute des citoyens, mais surtout d'ailleurs de la faute des citoyens, et nous on a déjà tout fait, je vous expliquais tout à l'heure, on sait qu'ils ont pas tout fait, et donc on a besoin de leur montrer et qu'ils avancent, et effectivement on espère qu'à la fin de la procédure juridique, donc dans un an et demi, l'État sera condamné et qu'il pourra se passer la même chose qu'aux Pays-Bas, et en fait, voilà, on voit qu'ils avancent pas, et on sait que c'est aujourd'hui qu'on a besoin d'avancer et pas demain. Et donc, bah, c'est super qu'il y ait des gens qui le rappellent et qui portent cette nécessité-là. Et voilà, je sais qu'on se croise beaucoup en manifestation. Et bravo pour votre action et votre mobilisation. Je vous disais, ça marche. Est-ce que vous pouvez rester 2 secondes ? Non mais je vous disais, ça marche, juste le deuxième petit mot, c'est je vais vous porter aussi un gilet jaune. Et voilà, l'exemple que j'allais vous donner juste après, là je vous parlais de la Belgique avec les intellos qui ont déposé un projet de loi qui est aujourd'hui en discussion. Au Danemark, il y a une initiative citoyenne qui a été lancée et en fait là-bas ils ont un espèce de RIC, c'est un référendum. En fait là-bas ils ont besoin de 50 000 signatures pour pouvoir déposer un projet de loi sur la table. Et en fait ils ont déposé un projet de loi, en 2 semaines ils ont eu 64 000 signatures. Et pour la même chose, une loi ambitieuse pour le climat qui agit maintenant. Et en fait, on voit bien que avec des revendications comme celles portées par les Gilets jaunes sur la question du référendum d'initiative citoyenne, ben, si on en avait en France, et ben, peut-être qu'on aurait réussi à pouvoir déposer ce projet de loi. Et donc, effectivement, on voit une vraie convergence entre ben, les demandes de justice sociale, les demandes de justice climatique et les demandes de justice démocratique. Et donc, pour ça aussi, j'aime beaucoup le symbole. Donc, merci. Bon, ben, du coup, Ça m'a coupé juste sur ma fin, mais je pense qu'on peut dire que j'ai à peu près fini de vous exposer l'état des lieux. Et peut-être qu'on peut discuter. Je crois qu'il y avait quelqu'un avec qui on avait demandé de m'aider à passer le micro. Et voilà. Et moi, je suis vraiment intéressée de savoir où vous en êtes, vous, et ce que vous attendez de cette action. Et voilà, au-delà de vos questions, d'avoir aussi vos envies, vos souhaits sur comment est-ce qu'on continue à construire cette mobilisation ensemble.
Bonjour à tous. Merci pour votre intervention. J'ai aussi signé la pétition, mais je pense que les pouvoirs politiques, malheureusement, ont peu d'impact sur les entreprises et sur la lutte contre le réchauffement climatique. Je donnerai un exemple. Donald Trump, qui a été élu aux États-Unis, n'a pas empêché les États-Unis de continuer à lutter contre le réchauffement climatique, et je dirais même au contraire. Parce que ce ne sont pas les hommes politiques qui gouvernent les entreprises. En France, le problème, on peut se poser la question pourquoi deux pays riches, ce sont la France et la Pologne, ne font rien contre le réchauffement climatique. La bonne nouvelle, c'est que les autres pays d'Europe, le Portugal en ce moment est en train de construire 80% d'électricité éolienne, la Grande-Bretagne en train de doubler sa production électrique sous forme éolienne. Tout en ayant commandé deux EPR à la France pour éviter que le prix de l'énergie s'effondre, parce que quand les Anglais prennent un tel choix, ils ont une grosse influence sur une grande partie du reste du monde. Et bien sûr, l'EPR les intéresse aussi, parce que ça permet de recycler le plutonium, qui est un déchet redoutable. Mais c'est probable que ça ne va pas marcher avant longtemps. L'Allemagne, l'Espagne, l'Italie de même, le Japon évidemment, les seuls pays, un peu la Russie avec la Pologne et la France, qui ne font pas grand chose. Alors on pourrait se poser la question pourquoi. C'est pour diverses raisons. La France, c'est bien sûr le nucléaire qui bloque un peu parce qu'ils craignent la concurrence, mais dans les autres pays c'est plutôt des structures anciennes. En réalité, la bonne nouvelle, c'est que le vent est moins cher que beaucoup d'autres sources d'énergie, et que l'hydrogène va arriver bientôt comme carburant pour tous les gros véhicules, à partir des camions, des autobus, des trains, des bateaux, des péniches, des gros bateaux, des gros navires, et peut-être même des avions, mais dans un procédé un peu différent, comme les boosters des fusées, avec des réducteurs de bruit qu'on utilise déjà sur les gros avions, parce que ça fait du potin. L'hydrogène va passer bientôt en phase industrielle pour tous ces véhicules. Le seul risque pour la France, c'est que les chantiers navals et le Renault Trucks, qui est pas loin d'ici, risquent de faire faillite, parce que, évidemment, le jour où on aura des camions à hydrogène ou des les Européens risquent d'avoir du mal à avoir les particules diesel des camions diesel, des camions qui roulent au diesel. Alors le point de blocage actuellement en France, il y en a un, c'est que les Allemands, l'État de Basse-Saxe a commandé 14 trains à hydrogène et il a mis à la tête de ce lobby Alstom, l'entreprise française qui fabrique des trains. Lorsque le premier train a été livré, le Cocorico a été assez modeste à l'Allemagne, et la SNCF a dit non merci. Donc le premier point de blocage, c'est la SNCF qui refuse de changer un train diesel amiante. Diesel frein en amiante en train hydrogène qui n'utilise pas l'amiante. Alors moi, ce que je dis, c'est pourquoi on attaque beaucoup les politiques, parce que la SNCF n'est pas gouvernée par le pouvoir politique, pas plus que EDF. Bonne nouvelle. Alors, si, il y a des liens quand même, mais... Il y a d'autres gens qui veulent prendre la parole. Voilà. Alors, pourquoi attaquer toujours le pouvoir politique quand c'est parfois plus les entreprises? Est-ce que c'est pas plutôt d'ailleurs les régions, les pouvoirs locaux qui pourrait avoir plus d'impact que le pouvoir politique central?
Oui, donc moi j'ai fait partie des personnes qui ont signé la pétition, et j'avais une question à vous poser, donc suite à la réponse de Macron en disant que l'État n'était pas responsable, que c'était les citoyens. qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ensemble?
Je ne sais pas trop comment m'y prendre. Moi, je voulais connaître le pouvoir des chercheurs. Tu as parlé du GIEC en 1998 sur la question et l'application du droit, de la science, de l'université.
Je vais essayer de répondre à ça déjà, si ça vous va. Du coup, je vais essayer de faire les deux en même temps, la question des entreprises et la question des écocides. Et après, comme ça, en plus, j'empaquette la question des chercheurs. Aujourd'hui, on a des grands responsables de crimes contre l'environnement. Ces grands responsables-là, ce sont principalement les 25 firmes dont je vous ai parlé, mais c'est aussi ceux qui ont été responsables de plusieurs marées noires, de l'affaire du Probo Koala, de Bhopal, TEPCO aussi avec Fukushima. C'est tous ces responsables de graves crimes contre la planète. Eco et Sid, la maison est tuée. C'est responsable de graves crimes contre la planète qui ne sont aujourd'hui absolument pas ennuyés. Ils sont complètement impunis. Alors de temps en temps, il y a des petites amendes. Par exemple, dans l'affaire du Probo Koala, c'était absolument pas parce que des produits toxiques avaient été déversés au large de la Côte d'Ivoire. C'était parce qu'ils ont une petite amende comme ça, parce qu'ils n'avaient pas été transparents sur la nature des déchets qu'ils avaient embarqués au port des Pays-Bas dont ils étaient partis. Voilà. Alors, en ce qui concerne TEPCO, Fukushima, vous savez qu'on leur a demandé de construire un mur de 13 mètres de haut pour protéger les citoyens de la radioactivité. Ils ont décidé qu'ils ne construiraient qu'un mur de 10 mètres de haut. Bah, personne n'en a inquiété. Alors, ce qui est un peu rassurant, c'est qu'il y a quand même quelques dirigeants de l'entreprise qui ont été condamnés tout récemment, le mois dernier, à 5 ans de prison pour négligence, qui avait mené à la catastrophe de Fukushima. Mais enfin, bon, vous voyez bien qu'entre le nombre d'êtres humains touchés, victimes par cette catastrophe nucléaire et le nombre d'écosystèmes touchés et les générations entières qui sont impactées, qu'il y ait 3 personnes qui fassent 5 ans de prison, on est quand même très très loin du compte. Et donc ce qu'on observe aujourd'hui, c'est ça. C'est qu'il y a des crimes qui sont commis, qui restent et qui sont impunis. Ce qu'on observe aussi, c'est qu'il y a de plus en plus d'éco-crimes. C'est-à-dire au-delà de ces graves crimes contre la sûreté de la planète, contre l'environnement, on a toute une palette de crimes plus petits qui sont commis constamment contre l'environnement et qui ne sont absolument pas punis. D'ailleurs, la preuve en France, il n'y a même pas de chef d'accusation de délit ou de crime contre l'environnement. On est dans des délits sectoriels. On n'a rien comme crime autonome contre l'environnement qui ne soit reconnu. Et aujourd'hui, c'est quand même dramatique parce que les crimes contre l'environnement, les éco-crimes, sont la première source de financement des groupes armés, des groupes terroristes. Et d'ailleurs, l'exploitation illicite des ressources naturelles a été la première source de financement de l'État islamique en 2015 et 2016. Et là encore, tout fait système, mais vous avez entendu parler de la Farge et des problématiques qui avaient été rencontrées justement avec l'État islamique en Syrie. Mais tout ça fait système et ces mêmes firmes qui s'accaparent l'argent, je vous en ai parlé un peu tout à l'heure, mais en fait, quand on regarde aussi l'histoire des multinationales, il y a de plus en plus de multinationales, mais parmi elles, c'est le même petit noyau qui survole en haut et qui s'accapare l'ensemble des richesses. Eh bien, ces firmes-là, c'est précisément les firmes pétrolières, les firmes cimentières et les firmes des graines et des semences qui sont tout en haut, tout en haut, tout en haut de l'édifice. Et donc, c'est eux qui sont très largement responsables de tout ça sans que jamais on puisse les remettre en cause. Alors, il y a une question qu'on pose, et donc là, je vais répondre à la question sur les chercheurs, qui est à quel moment est-ce qu'on distingue un éco-crime d'un écocide ? C'est juste pour vous donner un peu une idée. Mais en fait, la science, elle peut aider à déterminer ça. De la même manière qu'un juge, il détermine est-ce qu'on est dans un crime de guerre ou dans un crime contre l'humanité. On a besoin de savoir mettre des degrés, de donner des appréciations. Eh ben, on peut s'appuyer sur la science, et notamment le concept de limite planétaire, qui a été forgé en 2009 à l'université de Stockholm, qui définit 9 puis 10 maintenant limites planétaires, dont 5 sont aujourd'hui dépassées. Le changement climatique, la biodiversité, certains polluants qui sont dépassés. Et en fait, on peut distinguer un éco-crime d'un écocide dès lors que la gravité du crime met en danger le fait qu'on reste en dessous ou au-dessus ces limites planétaires telles que définies par le PNUE, mais aussi aujourd'hui par l'ensemble du système des Nations Unies. Et elles sont même reprises sur le site du Trésor public français, donc de Bercy, le grand ennemi qu'est Bercy. Il y a même une page sur les limites planétaires. Et donc, on peut s'appuyer sur la science dans ce cadre-là. En ce qui concerne le GIEC, c'est vraiment un accord sachant qu'il y a des scientifiques qui sont bien plus alarmistes que les scientifiques du GIEC et qui nous donnent des chiffres de montée des eaux, par exemple, de 6 mètres d'ici la fin du siècle. Donc il faut aussi regarder un peu ce que dit la science quand on avance, et le juge peut s'appuyer sur les scientifiques pour pouvoir trancher et prendre des décisions. Et donc pourquoi s'attaquer à l'État et pas aux entreprises ? Je vous ai dit tout à l'heure déjà que notre affaire à tous avait aussi agi en justice contre Total pour inaction climatique. Les Amis de la Terre Pays-Bas ont lancé une action avec 15 000 citoyens néerlandais contre Shell la semaine dernière. Il y a toutes ces villes qui agissent en justice contre les multinationales les plus pollueuses. Il y a des multinationales pollueuses qui commencent à faire faillite parce que justement, quand elles regardent est-ce qu'elles sont capables ou non de réparer les dommages qu'elles causent, ben elles se rendent compte qu'absolument pas. On a des banques qui estiment, comme HSBC, qui perdraient 40 à 60% de la valeur de leurs actifs s'ils tenaient compte du risque climatique. Et donc, en fait, tout le monde est un peu, tout le monde est un peu saisi. Nous, on attaque. Il faut qu'on attaque, qu'on continue d'attaquer. Il y a un agriculteur péruvien aussi qui s'en est pris à RWE, qui est un grand énergéticien allemand. Et voilà. Et là aussi, ça rejoint, ces actions en justice rejoignent le travail qui est fait par les copains d'ANV, les Amis de la Terre, etc., contre la Société Générale, ou toutes les actions qui peuvent être menées contre ces grandes entreprises. Je vous ai dit, il y a trois ennemis. C'est les pollueurs, ceux qui les financent, et ceux qui sont censés les réguler et qui ne le font pas. Et donc, c'est sur tous les fronts qu'il faut qu'on tape. Et de la même manière, quand je vous dis on a agi en justice avec 10 familles contre l'Union européenne en mai dernier, avant de lancer l'affaire du siècle en décembre, ben c'est aussi de dire la France, elle ne peut pas renvoyer la balle sur l'Union européenne, et l'Union européenne, elle ne peut pas renvoyer la balle sur la France. Et en fait, en réalité, à un moment, il faut bien qu'il y ait un responsable. Et donc, quand on attaque en justice les entreprises, leurs financeurs, les États et les groupes d'États internationaux, et ben à un moment, il faut bien qu'il y en ait un qui soit jugé responsable. Et nous, ce qu'on espère, c'est qu'il le seront tous.
Alors, juste un petit commentaire. Tu as dit trois fois le mot ennemi, là, déjà. Et donc, moi, j'ai une phrase que j'aime bien. Trois fois le mot ennemi. Ouais. Donc, il y a un truc, c'est pour moi qui l'ai inventé, hein, c'est de dire, je n'ai pas d'ennemis, je n'ai que des adversaires que je n'ai pas réussi encore à convaincre. Donc, voilà. Sinon, je valide tout le reste du discours. Après... En tant que citoyen, ben, là où la réponse n'est pas fausse, c'est que les citoyens n'en font pas encore assez. Donc on peut tous passer chez Enercop pour avoir du renouvelable, tous passer à la Nef pour avoir une banque qui ne finance pas des saloperies. Et puis manger bio, c'est aussi facile et bon marché. Après, avoir un travail qui a une utilité sociale, c'est beaucoup plus dur des fois de se reconvertir. Voilà. Et puis qu'est-ce que je voulais dire d'autre encore ? Ah oui, la question, donc est-ce qu'il y a sur le site la récap sur un tract ou un visuel simple de toutes les plaintes en cours et de toutes les victoires, tout ça. Voilà, et bonne continuation.
Ben, merci beaucoup, déjà. Je voulais savoir si on pouvait prendre les devants et faire nous-mêmes un tribunal, mais sérieux, pas une espèce de manège, mais voilà, si on pouvait prendre l'initiative de nous-mêmes faire un tribunal, et puis si ils veulent pas prendre leur défense... Ben, que je sais pas, qu'il doit bien y avoir des représentants qui seraient OK pour quand même les il doit bien y avoir quand même des représentants qui seraient d'accord pour venir défendre l'État ou toute autre personne que on accuserait en fait d'être responsable de la situation dans laquelle on est.
Merci beaucoup pour toutes ces informations, c'est super. Moi, je voudrais savoir si on pourrait faire un lien avec le combat contre les pesticides, le mouvement des coquelicots. Donc, est-ce qu'il y a quelle liaison on pourrait faire ? Et puis, bon, si Bayer-Monsanto fait partie des adversaires ou des ennemis, je ne sais pas si, quel terme on va employer pour Bayer-Monsanto, mais s'ils font partie des 25 firmes dont tu as parlé là. Et puis, peut-être te redonner quelques exemples de ces 25 firmes. Tu ne dois pas les connaître par cœur, mais tu dois reconnaître un paquet quand même. Merci.
Oui, moi j'avais oublié, j'avais commencé sur les citoyens et j'ai oublié, donc je suis content de la visite du citoyen Macron et c'est lui qu'il faut qu'on forme maintenant.
Et moi, Marie, j'avais aussi une question par rapport aux tribunaux d'arbitrage privé. Et voilà, que va-t-il en être si demain la France fait passer un certain nombre de lois et sont attaquées par des multinationales du fait des tribunaux d'arbitrage privés, du TAFTA, du CETA et de tous ces accords internationaux ?
Non, non, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là.
On s'arrête là ? Okay. Ça marche. Il marche ?
Je crois.
Ouais,
ça marche. Alors, ce qui est intéressant, tout à l'heure, je n'ai pas répondu à la question de qu'est-ce qui va se passer maintenant avec les 2 millions ? Et qu'est-ce qu'on peut faire, comment on continue. Et puis là, du coup, j'ai eu une proposition qu'on organise un faux tribunal pour pouvoir les juger pour leur inaction. Un vrai faux tribunal ? Ouais, mais un vrai faux, quoi, du coup. Nous, on a beaucoup fait ça. Hein. On a déjà organisé des tribunaux, par exemple, pendant la COP21, pour ceux qui étaient à Paris, je ne sais pas si vous vous en souvenez, on avait organisé un tribunal international des droits de la nature avec Vandana Shiva, avec Pablo Solon, avec Alberto Acosta. C'est important, ces tribunaux-là. D'ailleurs, il y a eu des tribunaux moraux avant d'obtenir la Cour pénale internationale et les tribunaux de Yougoslavie, etc., et tribunal de Nuremberg. Et en fait, c'est vrai que ça permet de faire avancer les consciences et aussi de montrer que c'est possible, qu'il y a des lois du respect de la protection de la nature qui existent et qu'en fait, on peut avoir des décisions qui sont prises derrière et qui peuvent être valables. Et d'ailleurs, en octobre 2016, on a organisé le tribunal international de Monsanto avec des vrais juges, des vrais avocats et des vrais défenseurs à La Haye. Et la décision qui avait été prise à la fin, qui avait été rendue par les juges, mais c'était là aussi un vrai faux tribunal, c'était que Monsanto était responsable d'écocide. Et la question qui se posait derrière, c'était, oui, mais si Monsanto est responsable d'écocide, il doit bien y avoir d'autres gens qui sont responsables, qui sont les gens qui auront failli à réguler Monsanto, à l'empêcher de vendre ses produits. Juste pour la petite histoire, Monsanto est le premier responsable d'écocide internationalement reconnu du fait de l'utilisation, de l'invention et de l'utilisation de l'agent orange pendant la guerre du Vietnam dans les années 60-70. C'est l'ancêtre du glyphosate, pour vous donner une petite idée quand même. Et en 1972, lors de la première grande conférence internationale sur le droit de l'environnement, la conférence de Stockholm, le premier ministre Olof Palme commence en disant « il y a un responsable d'écocide ». C'est Monsanto avec l'agent orange au Vietnam. Et depuis, le terme n'a cessé d'être étouffé. Ça n'arrangeait personne qu'il arrive. D'ailleurs, à un moment, il a été porté par la France. Et puis, on s'est souvenu qu'on avait de l'énergie nucléaire sur notre territoire et qu'en fait, le nucléaire était supposément coupable d'écocide et donc devait être interdit. Donc, on a arrêté de promouvoir la reconnaissance de l'écocide. Mais voilà, les vrais faux tribunaux, ça sert à quelque chose. Maintenant, ça n'a pas pour effet de les faire agir directement, mais en tout cas, il faut qu'on continue à les porter. Et puis, sur la question de l'affaire du siècle, je pense que, voilà, moi, je préside plus notre affaire à tous. J'ai transmis ma présidence il y a un mois, mais les associations continuent à travailler sur cette question-là. Elles vont porter l'affaire devant la justice, elles vont aller chercher le plus d'éléments juridiques possibles pour le faire valoir, et elles vont aussi appeler aux mobilisations, notamment des 15 et 16 mars, et appeler à continuer à se mobiliser pour que le gouvernement agisse, ce que je disais tout à l'heure, avant même la décision qui sera et qui devra être rendue par le juge et qu'on espère positive. Mais cette mobilisation-là, elle ne peut pas dépendre que des associations. Encore une fois, on est 2 150 000 à avoir signé cette pétition aujourd'hui. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'organisations qui nous ont envoyé, qui nous ont apporté leur soutien. Et en fait, c'est tous ensemble qu'on doit construire cette mobilisation. Elle doit se passer partout, par nos gestes individuels, en passant par exemple chez Enercop, mais pas que, en triant ses déchets, etc. Par le fait qu'on aille marcher dans la rue, qu'on soutienne les lycéens qui se mettent en grève, qu'on aille chercher les jeunes pour qu'ils se mobilisent. Voilà, par tous les modes d'action possibles. Et on a besoin d'avancer sur cette question-là. Et toi, ta question, c'était sur les tribunaux d'arbitrage privés. Ouais, je disais tout à l'heure, en fait, les multinationales, elles écrivent le droit dans notre dos, hors de toute source démocratique. C'est un vrai problème. Vous savez ce que c'est, les tribunaux d'arbitrage ? Est-ce que vous pouvez me dire en levant la main ? Vous savez ce que c'est ? Ouais, y en a quand même pas mal qui savent pas ce que c'est. En fait, déjà au XVIIe siècle, mais surtout ces dernières années, dans les dernières décennies, il y a une nouvelle manière de rédiger du droit qui a émergé. Avec la mondialisation, en fait, les firmes passent des contrats entre elles. Et puis, ça crée un droit qu'on appelle le droit des contrats. Mais les firmes, elles investissent aussi. Elles passent des contrats avec des États pour pouvoir aller investir dans ces États. Et quand on a un contrat, ça veut dire qu'on peut dénoncer le contrat. Et ça veut dire que quand on a l'impression que le contrat est rompu, on peut attaquer le responsable de la rupture du contrat. Et on a aujourd'hui 500 décisions d'arbitrage privé international qui ont été prises C'est quand même beaucoup. Enfin, ça peut paraître petit, mais en fait, c'est beaucoup. Ça veut dire que 500 fois, il y a des entreprises qui ont remis en cause la légitimité démocratique d'un État et de ses citoyens de prendre des décisions qui puissent attenter à leurs intérêts financiers et économiques. Et on a un exemple assez parlant, qui est celui de l'Équateur. En Équateur, pendant 20 à 30 ans, il y a une firme qui s'appelle Chevron Texaco, qui fait partie de ces 25 grands pollueurs, qui a exploité du pétrole et qui a mis tous les déchets de son exploitation dans une fosse à ciel ouvert. Et donc on a 30 000 victimes directes dans leur santé, on a une trentaine de morts, mais aussi plein de gens dont on a pu analyser les problèmes de santé qui ont été posés par cette exploitation pétrolière, des écosystèmes en pleine forêt amazonienne complètement détruits, et une bataille en justice qui a duré entre 10 et 15 ans pour que les victimes puissent être indemnisées, simplement indemnisées, des dommages qu'elles ont subis, des atteintes qui ont été portées à leur santé. En fait, Chevron et Texaco ont déjà joué avec les grandes lignes du droit parce que c'était une firme américaine qui avait une filiale en Équateur. Et donc, est-ce que c'était le droit américain ou le droit équatorien qui s'appliquait? Et quel était le tribunal qui avait le droit de juger? Voilà, tout ça, ça a joué un jeu de ping-pong pendant des années et puis des appels. En juillet, on a eu une super décision qui avait l'air de mettre fin à la dispute et qui demandait effectivement à cette grande firme multinationale d'indemniser les malades. Et puis, deux mois plus tard, on a eu une décision d'une cour d'arbitrage privée qui est située à La Haye et qui a dit non seulement l'Équateur n'avait pas le droit de faire payer Chevron, mais en plus de ça, l'Équateur va devoir indemniser Chevron pour ses années de procédure judiciaire. Voilà, et donc on a un vrai sujet démocratique. Ce droit qui émerge, alors il comprend aussi le droit public élaboré par des États, mais on appelle ça le droit global. Nous, face au droit global, on a envie de porter un droit planétaire, qui soit un droit qui soit non pas issu et écrit par les multinationales et les financiers et les banques, mais qui soit un droit qui vienne du bas. Et c'est aussi ça l'enjeu des actions en justice, c'est de se dire... Les États, ils se rencontrent, enfin les chefs d'État, ils se rencontrent au niveau international, ils rencontrent aussi les entreprises, un peu de société civile, les villes, tout ça, mais ils peinent à se mettre d'accord sur des trucs, puis quand ils se mettent d'accord sur des trucs comme l'accord de Paris, après derrière c'est pas contraignant, puis ça mène à rien. Et puis donc finalement, en fait, leur droit d'arbitrage, leur droit des contrats est un droit plus dur, plus contraignant, plus efficace que les petits accords qu'ils signent entre eux pour protéger la planète et notre avenir. Et donc face à ça, nous on peut les obliger par le bas, au Pakistan, en Colombie, aux Pays-Bas, mais on est de plus en plus nombreux. Il y a un procès dont on attend les résultats en Irlande, il y a des procès en cours en Grande-Bretagne, en Belgique, ils sont 60 000 en Belgique, en Suisse, il y en a un qui va arriver cette année en Italie, il y en a en Inde, il y en a au Nigeria, il y en a en Ouganda, il y en a en Afrique du Sud, au Canada, il y a les jeunes Canadiens aussi qui se sont lancés. Mais en fait, si chacun, on s'approprie cet outil qu'est le droit, si on demande aux États de nous protéger, et si on arrive à faire gagner ça, eh ben on va créer une coutume internationale. Ça veut dire une obligation. Si dans plein d'États, on a la même obligation qui est de nous protéger et de protéger le climat et l'environnement, eh ben à la fin, ça peut avoir force de droit, force contraignante pour tout le monde. Et ce sera un droit planétaire qui tienne compte des limites planétaires, qui protège la planète pour mieux nous protéger, nous. Et donc, c'est ce droit-là qu'on doit construire. Et ce que je trouve très joli dans cette histoire-là, c'est qu'en fait, on est hors des questions de colonisation, de domination, etc. En fait, on est égal, chacun, partout autour de la planète, pour pouvoir défendre cette question-là. Alors, quand je dis égal, je vais un peu vite, parce qu'il y a quand même des pays où il n'y a pas vraiment d'état de droit. Mais on va voir en France aussi, déjà, est-ce qu'on a le droit à un procès? Est-ce que l'état de droit tient en France? Parce que c'est aussi une question. Et donc, finalement, voilà, dans des pays comme le Pakistan, ça a pu marcher. En France, peut-être que ça ne marchera pas. Hein. Donc, on verra. Et puis, parfois, les surprises ne viennent pas de là d'où on pense.
Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions? On peut reprendre encore une petite dizaine de minutes.
Dans la continuité de ce que vous venez de dire, que je trouve parfaitement indignant, effectivement, puisqu'il y a plein de procès partout, et puisque justement l'enjeu c'est d'arriver à juger tout ça, est-ce que c'est envisageable ou utopique d'inscrire déjà ce dont vous avez parlé, ce type de juridiction dans chaque constitution ou même dans une constitution planétaire, et d'autre part d'envisager le principe d'un procès revolving, un peu comme le crédit du même nom, c'est-à-dire que pour tous les procès de type éco-crime, écocide, qu'ils soient systématiquement prévus, en plus de l'indemnisation des victimes, en plus de la réparation des dommages causés, en plus des frais de justice, le paiement d'alimentation d'un fonds de soutien qui financera les procès suivants sur tous les procès de type écologique. De face, parce que c'est ça le gros problème, c'est que ce sont les porteurs de plaintes ont peu de moyens et ils s'adressent à des gens qui ont d'énormes moyens. Donc ce serait un moyen, une façon de générer un fonds qui se réalimenterait chaque fois qu'il y aurait cause de procès. Voilà.
Merci. Merci beaucoup. J'avais une question moi, par rapport aux actions plus locales et régionales. Parce que moi, ce que je trouve chouette dans ce que vous portez, c'est que vu que ça se fait en parallèle des mobilisations citoyennes, les marches pour le climat, etc., que ça s'auto-entretient, je ne sais pas comment on peut dire. Enfin, moi, je viens de Bourg-en-Bresse, où on arrive vraiment à mobiliser justement autour de ça, de l'affaire du siècle, en disant qu'on veut marcher en soutien à l'affaire du siècle. Donc, du coup, ceux qui ont signé, ça les encourage à venir. Et en même temps, nous, on veut aussi porter ça pour dire continuez à les signer. Enfin, voilà, ça va un petit peu dans ce sens-là. Et pour aller plus loin aussi... On le voit localement, quand on attaque les élus, ils n'aiment plus trop après travailler avec nous, quand on est dans des assos, protection de l'environnement ou autre. Sauf que là, la différence, c'est qu'il y a la mobilisation dans la rue. Et qu'on le voit au niveau du gouvernement, ils osent pas dire que ça les emmerde, ce que vous faites. Parce qu'il y a plein de gens qui vous soutiennent, qui ont signé la pétition, etc. Est-ce qu'au niveau local, il peut y avoir quelque chose comme ça à envisager, nous on est dans le réseau France Nature Environnement par exemple, on a l'habitude entre guillemets d'attaquer souvent au niveau de la justice administrative, mais contre des projets inutiles, etc. Enfin, il y en a plein d'autres qui le font. Hein. Est-ce que sur l'inaction climatique, je pense aux régions par exemple, qui ont en termes d'aménagement du territoire, de politique industrielle, de politique économique, qui ont un rôle énorme, enfin qui jouent un rôle énorme dans la non-régulation du réchauffement climatique, est-ce que de réfléchir avec d'autres assos qui sont aussi situés sur les territoires pour attaquer les régions, les départements, les grosses agglos, etc. Mais qui soient quand même mobilisatrices et qui les bloquent pas, quoi. Parce que, enfin voilà. Je sais pas si. En tout cas, merci et merci pour tout ce que vous faites.
Ouais. On va conclure sur ces dernières réponses.
Je sais pas.
Je peux. Ouais, ça va. Sur l'idée du fonds, c'est plutôt une belle idée. C'est sûr qu'il y a une distorsion énorme de moyens entre les grandes firmes qui ont des batteries d'avocats super bien payés et la planète qui n'a pas vraiment d'avocats et dont de pauvres citoyens pas très outillés ni financièrement ni techniquement souhaitent se faire les représentants et les défenseurs et les avocats. D'ailleurs, ça me frappe beaucoup parce que chez notre affaire à tous, on a beaucoup de juristes qui viennent nous voir et des jeunes avocats ou des élèves avocats et qui disent « Mais nous, en fait, on a envie de travailler avec vous. » Et notre problème, c'est justement ça. C'est qu'en fait, quand on regarde notre avenir, si on regarde qui va nous payer, eh ben, en fait, ça va être que les méchants, quoi. Et c'est assez problématique et on a besoin de trouver des solutions. Mais ça, c'est une question qui est démocratique et essentielle. Je pense que si on permettait, si on arrivait à faire reconnaître les droits de la nature en France et en Europe, déjà, on pourrait avoir des mécanismes qui permettent d'avoir des fonds pour financer ces avocats, etc. D'ici là, moi, la seule chose que je peux vous inviter à faire, c'est à faire des dons pour notre affaire à tous, sur notreaffaireatous.org, comme ça je fais ma petite page de pub. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on a vraiment besoin de soutien et que l'appel aux avocats, ça coûte cher, que la plupart d'entre eux sont en pro bono. Par exemple, sur l'affaire du siècle, en fait, ils sont tous pro bono, et qu'on a besoin de cet engagement de ces avocats qui trouvent à travers ces actions en justice aussi des manières de vivre leur engagement pour la planète. Voilà, on sait bien que si on veut protéger l'ensemble des éléments naturels, on va vraiment avoir besoin de soutien. Et quant aux actions locales, il y a plusieurs choses. D'abord, FNE fait un travail formidable partout en France pour protéger les projets. Ils ne sont pas les seuls, certes, mais ils sont quand même les acteurs majeurs de la protection de l'environnement par le droit sur l'ensemble des territoires. Ils font un très bon travail. On n'a pas besoin de se substituer tous les uns aux autres. C'est la même chose sur les pesticides. Il y a des gens qui se positionnent pour défendre les victimes des pesticides, pour défendre les sols, etc. Notre affaire à tous se positionne plutôt comme un acteur de ce qu'on appelle la stratégie contentieuse, c'est-à-dire qu'on va aller chercher des décisions de justice qui peuvent être innovantes et qui vont permettre de protéger l'ensemble des communs derrière. On travaille sur la question des projets locaux avec plusieurs angles. D'une part, l'angle de se dire, effectivement, il y a des collectivités, des villes, des régions, des départements qui vont être nos alliés. Et notamment celles avec lesquelles on agit contre Total, en fait, on considère que c'est nos alliés. Qu'elles essayent d'agir pour la protection du climat. Qu'elles essayent d'agir au maximum de leur capacité dans une situation où l'État ne tient pas ses responsabilités, d'une part, mais en plus leur coupe les moyens. Et donc, il faut quand même faire attention à ne pas agir en justice contre tout le monde et n'importe qui, parce qu'il y a des gens avec lesquels on doit travailler, avec lesquels on doit avancer, et que les villes, les collectivités, elles peuvent en faire partie. Mais il y en a certaines dont on va s'apercevoir assez vite, et par exemple la région Rhône-Alpes-Auvergne, qu'elle finance des projets qui sont climaticides. Mais je pense aussi à la région Île-de-France avec le grand projet de centre commercial d'Europa City. En fait, c'est dramatique, et évidemment, ça va avoir comme conséquence une augmentation des émissions de gaz à effet de serre contre lesquelles il faut se battre. Je vous ai parlé tout à l'heure des batailles juridiques qui étaient menées contre l'agrandissement de l'aéroport de Vienne ou l'agrandissement de l'aéroport d'Heathrow à Londres. Et là, le juge de fond a dit, mais on ne peut pas, on a signé l'accord de Paris, c'est pas possible qu'on agrandisse nos aéroports alors que ça va augmenter les émissions. Et d'ailleurs, ce qu'on va tenter contre l'agrandissement de Roissy, on va dire, mais c'est pas possible, un aéroport, ça pollue, et on est censé réduire drastiquement nos émissions, et d'ailleurs, la France est en retard sur ses objectifs. Mais à chaque fois, on a ces cours suprêmes qui disent droit et liberté économique. Sauf que la semaine dernière, en Australie, il y a un projet de mine de charbon, Rocky Hill Mountain, qui a été annulé, et là, le juge a dit, il y a une contradiction profonde entre un projet qui aura pour conséquence immédiate l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre et notre engagement pour la protection des climats. Et donc le projet est tombé. Et donc on va finir par les faire tomber à force de les travailler. Puis peut-être le dernier élément de réponse, c'est que c'est précisément la question des communs naturels planétaires. En fait, le principe d'un commun naturel planétaire, c'est que n'importe qui, pas tout autour de la planète, par une petite action, enfin par de multiples petites actions ou par une action d'envergure qui pourrait être justement un écocide, peut mettre en danger ce commun pour tout le reste de l'humanité. Et en plus de ça, il y a des interactions entre ces communs. Et donc, quand on endommage l'un, on endommage l'autre. Et par exemple, les arbres, on a un réseau pour les droits des arbres qui est en train de se lancer à travers l'Europe, dans les villes, parce qu'on sait que dans des villes, on coupe des arbres. Alors, on peut se dire, ouais, il y a une allée, il y a 5 chaînes qui ont été coupées. Bon, bah, enfin, voilà, c'est quoi ? Il y a les petits écolos, ils râlent parce qu'il y a 5 chaînes qui sont coupées, mais and so what, quoi ? Enfin, et qu'est-ce qui se passe ? Et ben, en fait, comme ça se fait partout dans toutes les villes d'Europe, en fait, on est vraiment en train de couper des corridors écologiques par lesquels les abeilles pourraient se déplacer, les autres pollinisateurs, les oiseaux, etc. Et on est en train de mettre à mal la biodiversité et notre capacité de respirer, etc., dans son ensemble. C'est la même chose pour la pollution des sols. Quand on met du pesticide dans les sols, en fait, ça va dans les nappes phréatiques. Et en fait, c'est pas parce qu'on met des pesticides dans un champ, mais si on en met dans le champ derrière et un peu partout au long du fleuve, eh ben, du coup, l'eau, elle est complètement polluée. C'est ça, le principe des communs naturels, en fait, c'est qu'on peut y porter atteinte partout autour de la planète. Et c'est pour ça qu'on a besoin de ce droit universel. C'est pour ça qu'on a besoin de ce droit planétaire à faire émerger. Et ça, ça peut se jouer par des actions locales. Si on arrive à mettre ensemble, et donc ça, faut y réfléchir et faut le travailler. Par exemple, si on arrive à porter plainte contre tous les grands projets inutiles en même temps, mais il faudrait savoir contre qui on porte plainte. Là, ce serait plutôt l'État. Mais de dire, en fait, cet ensemble de projets-là, il met en danger le respect de nos objectifs climat, le respect de nos objectifs biodives, il bafoue complètement l'obligation de protection des droits humains, de l'environnement, etc. Et donc, il y a aussi ça à avoir en tête quand on parle du local, c'est qu'en fait, il n'y a pas de bataille locale en fait en matière environnementale. C'est qu'une bataille planétaire à chaque fois, sauf qu'elle peut se jouer au plus petit bout de la Terre.